Donc nous accueillons Madame Frau Megs, qui est professeure à l'Université de Sorbonne Nouvelle et qui va nous tracer les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Si vous le voulez bien, on enchaînera sur la table ronde et on prendra un temps de questions après. On a prévu dans la construction de la journée un temps de questions à partir de midi. Merci, merci.
Bonjour à tous. Merci à la BPI, merci au Centre du Livre de cette invitation qui me touche parce que je suis très attachée à la communauté des bibliothécaires. Il se trouve que je suis une des expertes auprès de l'IFLA, qui est l'Association internationale des bibliothécaires, qui fait partie, comme vous le savez, des grandes ONG de mise en œuvre de l'UNESCO. Et il se trouve que j'ai moi-même une chaire UNESCO, qui est la chaire Savoir devenir à l'ère du développement numérique durable. Et avec quelques collègues, dont certains sont présents dans la salle, nous avons aussi créé une association pour savoir devenir, c'est-à-dire pour savoir se projeter dans l'environnement numérique qui est le nôtre. Donc je suis ravie de venir parler avec vous et de faire un peu le point de la recherche, à la fois historique et le point de la recherche sur la lecture et l'écriture en bibliothèque et les usages des jeunes, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut que nous ayons bien en tête avant de pouvoir se projeter dans les actions que vous pouvez mener et dont moi je me réjouis à l'avance, parce que les bibliothèques sont vraiment, comme je le dis là, des phares. Je fais allusion à la déclaration d'Alexandrie, hein, des phares pour l'EMI et des catalyseurs. Vous êtes des espaces privilégiés. Et je suis ravie qu'il y ait une prise de conscience de ce nouveau rôle. Donc je vous propose un rapide historique. Je ne vais pas du tout simplifier. Je considère que nous sommes dans une situation complexe, hein, et je crois en la complexité, à la Edgar Morin. Mais je crois aussi que, en se l'expliquant, en se le clarifiant, hein, on se donne des outils pour agir, en tout cas, ou déjà un cadre pour comprendre. Et puis, me focaliser sur le présent, hein, sur cette augmentation numérique, hein, on va dire, depuis les années 2005, qui nous préoccupe tous, en regardant comment ça a transformé les pratiques des jeunes et les implications pour vous. Ça vous va comme menu ? Ok, bien, c'est parti. L'EMI, c'est 50 ans d'histoire à peu près. Hein. Ça a commencé, j'exagère un peu plus quand même, avec Freinet, avec l'entrée de la presse à l'école, hein, mais les presses à imprimer. Hein. Et puis ensuite, la télévision éducative, etc. Vous voyez un peu le cheminement. Et donc, au début, ça a été une pédagogie. Ça s'est présenté comme une éducation à... sans grande ambition disciplinaire, hein, mais avec une ambition de savoir-faire et d'une approche pédagogique, un geste pédagogique par le faire, hein, par la prise en main des outils, en se disant qu'en prenant en main les outils, on développe, bizarrement, contre-intuitivement, un esprit critique. Et cet esprit critique, Dieu sait qu'on ne sait pas très bien comment on le fait passer. C'est devenu, au fil du temps, et je vais vous le montrer tout de suite, un projet politique de participation des publics et de protection de ces mêmes publics, hein, et souvent, vous le voyez maintenant d'ailleurs avec le discours, hein, sur la désinformation, etc., hein, ce discours de la protection reprend la main, mais c'est inscrit surtout en France et en Europe, hein, dans les droits de l'homme, notamment l'article 19, hein, le droit à l'information. Et c'est devenu avec le temps un droit socio-économique, hein, un droit pour pouvoir s'inclure dans la société, pour faire citoyenneté et pour pouvoir agir. Alors je vous propose, et attention à ceux qui font là-bas au bout, hein, une frise temporelle. Je ne savais pas comment vous faire historiquement un raccourci de tout ce qui s'est passé et des niveaux d'intervention divers et variés qui font qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Donc prenez vos loupes et si vous ne les avez pas, rapprochez-vous, mais en gros, il y a trois niveaux de lecture. Il y a le niveau de l'Union européenne, il y a le niveau de l'UNESCO et il y a le niveau français dans lequel je vous ramènerai, que vous connaissez sans doute le mieux. Mais ce que je voulais vous faire voir par certains pics ici, c'est à quel point il y a des moments où l'Union européenne, l'UNESCO, la France travaillent ensemble. Et c'est une des caractéristiques de l'EMI. Elle n'est pas centrée juste aux frontières de la France. Et la France est un des pays qui a le plus contribué à son développement, à son façonnement, etc., notamment à son rattachement aux droits de l'homme. Donc, si je prends l'UNESCO, parce que c'est celle qui a commencé, hein, vous connaissez tous la déclaration de Grunewald, donc l'UNESCO fait de grandes déclarations. Vous allez me dire, des déclarations, c'est des mots, mais vous êtes bien placé pour savoir que les mots nous font agir, hein, et qu'on s'en empare ensuite à des niveaux nationaux. Donc, il y a eu une série de déclarations. Alors, je vous ai mis en orange ce qui relève de vous, la documentation, en bleu les médias, et en violet ce qui nous impacte en ce moment, la data. Hein. Mais les couleurs ont un peu changé avec le transfert de mon PowerPoint. Voilà, donc il y a deux ou trois grands moments de l'infomédia qui a commencé, hein, on en parlait tout à l'heure, ici. 2007, l'agenda de Paris qui crée toute une série de chaires UNESCO, dont la mienne. La déclaration de Fès, qui est la première en 2011 à combiner éducation aux médias et à l'information. C'est à ce moment-là que nous faisons la bascule vers l'EMI. C'est récent. Et c'est pour ça que ce n'est pas encore fait. Hein, on est en ce moment dans un creuset où les uns et les autres nous apprenons à nous connaître, hein, en tant que culture, mais ce n'est pas encore fait. La déclaration de Paris qui fait basculer sur le numérique et reconnaît la place du code en disant pas de codage sans décodage. Et très récemment, la déclaration Rome qui est sur les droits à l'Internet et notamment à l'universalité. Voilà, l'UNESCO en est là pour le moment. L'UE, que fait-elle ? Ben, c'est surtout à travers la directive Télévision sans frontières que l'éducation aux médias a commencé à faire sa place. Et vous voyez que la directive, elle va connaître plusieurs moments. Elle devient la directive des services des médias audiovisuels. Et elle est révisée. Et elle est révisée. Elle vient juste d'être révisée pour inclure, comme vous le savez maintenant, les plateformes. Donc on a une mise à jour qui passe de la télévision aux plateformes. Voilà. C'est à cause de cette directive que la France a dû faire des lois. Des lois qui, par exemple, font passer le numérique à l'école et incluent l'EMI, puisqu'il faut harmoniser en droit national une directive. Donc la directive de 2011 fait arriver en 2013, mathématiquement, la loi sur le numérique à l'école et sur l'EMI qui fait partie de cette loi. D'accord ? C'est pour ça que je voulais vous montrer les enjeux européens. On est dans un cadre territorial très spécifique. On est d'ailleurs très différent de tous les autres continents. On est le plus avancé là-dessus. Cocorico. Voilà. Donc, la loi arrive. Hein, et donc là, je nous descends au niveau français, si je puis dire. La France qui a eu ses initiatives à elle, hein, mais toujours en faisant attention à son environnement. Donc, vous voyez arriver le CLEMI en 83. Je ne vous ai pas mis, parce qu'un peu plus tôt, il y a la CNIL qui commence déjà à réfléchir à ces questions. La semaine de la presse, donc, dont on va fêter les 30 ans. Mais il y a le CNC, et tout ce qui est l'éducation à l'image, je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, hein, avec les DAC. Et puis la DUI, la délégation d'usage de l'Internet, hein, qui, elle, est sur le côté Internet sans crainte, parce que l'Europe crée le programme Safer Internet. Hein, vous voyez les voilà en violet, donc c'est tout ce qui est Internet. Je l'ai fait ressortir dans la frise un peu plus haut comme ça. Hein. On crée évidemment un certain nombre d'outils pour vous, le CAPESDOC, qui va évoluer notamment en 2013 pour inclure l'éducation aux médias. À nouveau, c'est récent. Et puis on arrive au plan bibliothèque. Hein. Mais la création du PIX aussi, hein, qui est en association avec l'Union européenne et les DIGICOMP, hein, et qui retranscrit en droit français les DIGICOMP, les compétences numériques. Et la CNIL avec le RGPD qui arrive en disant qu'il faut aussi prendre en compte la donnée, et notamment la protection des données et de la vie privée. Ça va ? Vous y êtes ? Hein ? Donc tout ça, il y a une cohérence. Hein, vous voyez que ça se tisse et ça s'entretisse avec des moments de retour, hein, voilà. Et dernière grande nouvelle pour répondre à une des questions que vous aviez tout à l'heure, notamment Valérie, l'Union européenne, donc ici, vient d'annoncer la création d'une semaine européenne de l'éducation aux médias, qui aura lieu en mars et qui va s'accumuler avec la création par l'UNESCO de la semaine mondiale de l'éducation aux médias qui a lieu en novembre. Donc moi, je vous interpellerai en disant, si vous faites des événements phares, je vous suggérerais de les mettre dans ces semaines-là, hein, de manière à ce que vous puissiez bénéficier aussi, hein, de partage avec d'autres pays, une force d'entraînement, et puis un rendez-vous qui va devenir un rendez-vous pluriannuel, biannuel en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'historique. Ça va ? Oui ? Donc c'est complexe, c'est du politique, c'est du droit, c'est du pédagogique, hein, et c'est ces trois dimensions qui font la spécificité de l'EMI, à mon avis. Alors du coup, avant le numérique, on a commencé à poser, hein, l'épistémologie de l'EMI. Hein. Quels sont nos concepts clés? Quels sont nos territoires, hein? Alors, vous voyez qu'il y a un axe politique, toujours, et puis un axe pédagogique. Hein. L'axe politique, c'est l'axe protection-participation. Hein. Il faut protéger les jeunes, notamment des désordres. Il faut les faire participer pour leur donner un esprit critique et leur faire se battre contre les désordres. Et puis, il y a un axe pédagogique, et c'est un axe pédagogique qui n'est enseigné nulle part en tant que tel. Ce que c'est que d'être citoyen dans la vie quotidienne, l'éducation civique ne le fait pas assez, et notamment l'idée toujours posée par l'éducation aux médias, hein, qu'on le fait en créant, on le fait en s'appropriant les outils. Et il se trouve que ces outils sont devenus très légers, très portables, très mobiles, très peu chers. Hein. Et donc ce pôle-là de la créativité et de la participation, c'est celui qui est le plus, en ce moment, hein, le plus mis en avant. Mais traditionnellement, c'est celui-ci de la protection et de la citoyenneté qui est appelé quand on parle des désordres de l'information. Mais en fait, pour faire quelqu'un qui soit bien formé en EMI, il faut être là-dessus, dans le pouvoir d'agir et dans l'engagement. Voilà, ça c'est l'EMI dans ses concepts, qui en font une discipline à part. C'est pas du français, c'est pas de la géographie, c'est pas de l'histoire et c'est pas des maths. Alors vous me voyez venir parce que moi je vais vous dire, il faut maintenant aller un pas en avant de plus en France et être pionnier et créer la discipline. Et ce n'est pas fait. Et peut-être que vous pouvez être un des instruments de cette création. Alors les compétences se sont développées dans le temps. Hein. Elles tournent tout autour des médias au départ. Et puis elles vont aller vers la fabrique de l'information, hein, et l'utilisation à la fois en termes de consommation, de production et de création. On va aller vers décoder les malentendus, hein, et résoudre les conflits. Et puis connaître ses droits. Hein. Donc vous voyez là qu'on construit effectivement une série de compétences à nouveau qui sont spécifiques. Et bon, ça a l'air bloqué. Que se passe-t-il? On va passer par là. Bon, c'est bloqué. Sympathique. Vous n'allez pas pouvoir voir la suite. Voilà. Où est-ce que ça se passe, l'EMI? Alors, ça se passe au ministère de la Culture. Hein, je ne parle pas du ministère de l'Éducation. On a vu là, le rôle du CLEMI. Mais il y a une convention, hein, j'étais directrice du CLEMI quand on a signé une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture pour qu'il n'y ait pas d'isolement et qu'on casse un peu les silos traditionnels. Hein. Mais ça se passe à la DGMIC, hein, avec les industries culturelles et créatives. C'est cohérent avec l'Europe, hein, puisque en Europe, nous sommes, l'éducation aux médias se trouve dans la DG Connect. Et c'est la DGMIC qui est en train de se développer un programme très intéressant et que je vous conseille de regarder, qui est un programme Émile, qui associe l'éducation aux médias à l'information et à la liberté d'expression. Les DRAC et les rectorats, hein, ça se décline très vite dans les territoires. Je mets l'exemple, par exemple, du prix Bayeux, hein. Les services éducatifs et documentaires et les bibliothèques, etc. Donc, en France, on a retranscrit ça comme ça. Et on a aussi, c'est un essai ici de rationalisation des différents référentiels qui traînent, hein, et Dieu sait qu'il commence à y en avoir, celui du Conseil supérieur des programmes, celui du socle commun, qui est sans doute le plus intéressant pour nous tous, celui de l'EMI développé par la DNE et les Digicomp donc européennes. Et ce qu'on a fait avec Savoir Devenir, c'est qu'on s'est dit, en fait, mine de rien, se trouvent maintenant bien délimités 5 domaines qui font partie de l'EMI, hein, l'information documentation, la création, la citoyenneté avec la sécurité, l'environnement numérique, sa compréhension générale et médiatique, et les compétences de collaboration et de communication. Voilà, hein. Quand on fait de l'EMI, c'est ça qu'on circule. Voilà. Et donc là, on était tranquille, on s'est dit, ça y est, on a notre épistémologie, on a nos dimensions diverses et variées, on en a 5, on les a bien circonscrites. Et on est dans on était relativement optimiste, hein, je dirais, jusqu'à 2005-2006, dans cet imaginaire et ces représentations du surf sur les vagues, jusqu'à ce qu'on arrive à la mine et à l'exploitation des données et les révélations des scandales que vous connaissez, par exemple autour de Cambridge Analytica, hein, et le fait que les données peuvent être utilisées contre les médias et contre l'information. Et donc là, on se retrouve à nouveau dans cet équilibrage, hein, créativité, citoyenneté, hein, de l'EMI. Ça se voit qu'il y a un problème, parce que moi, évidemment, j'ai fait mon PowerPoint sur mon Mac. Ça nous laisse sur la mine, ce qui n'est pas une bonne idée. Bon. C'est très bizarre. Si je n'avance pas, je vais avoir un problème pour vous faire la suite. Voilà, donc ça y est, ça a avancé. Parce que la question de la mine, elle arrive là. Avant, il y avait de la donnée, mais quand on ne savait pas l'interpréter et profiler les gens avec, ça ne posait pas trop de problèmes. Ce qui arrive avec les médias sociaux, le tournant social, 2005-2007, création Facebook, Internet, YouTube et Twitter, hein, c'est que tout ce qu'on avait réussi à faire au niveau du contrat d'information et des médias de masse, etc., hein, eh bien, c'est remis en cause par les amateurs, par la subjectivité, par la possibilité pour tous d'être médias et de contribuer de l'information, de l'opinion, notamment, hein, du commentaire et de la recommandation. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce que, en fait, ça nous oblige à ouvrir le périmètre. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours difficile à faire dans une discipline, hein, parce que le périmètre, là, il s'ouvre de manière exponentielle. Hein. On était tranquillement en train de réfléchir aux médias dans les années 80, 90, même 2000, hein. On s'est rendu compte qu'il fallait prendre en compte les docs, et puis les docs, maintenant, ce n'est plus les docs tels qu'on les connaissait avant. Hein. Vous reconnaissez tous ces différents types de fichiers hyper diversifiés, avec des finalités diverses, elles aussi. Hein. Et ces fichiers sont tous, comme vous le savez, numériques. Ça veut donc dire pixelisables, ça veut donc dire modifiables, ça veut donc dire falsifiables. Hein. D'où des informations, hein. Et puis la data, hein, qui arrive accrochée à ces documents, notamment par le biais des métadata, hein, et qui va donc faire que le mot information, maintenant, en fait, quand vous l'employez, il faut faire très attention, parce qu'il recouvre trois dimensions qui sont complémentaires, qui jouent les unes sur les autres, hein, et qui font qu'on parle avec Alexandre Serre, notamment, hein, que vous connaissez bien, des trois cultures de l'information. Ça vous change le périmètre. Ça change beaucoup de choses. Hein. Ça change notamment ce que j'appelle la situation de l'information dans l'écran navette, hein, parce que les médias de masse sont toujours là. Ils se portent très, très bien. La télévision est suivie en ligne sans le moindre problème. Hein. Mais les médias sociaux, évidemment, augmentent l'information, hein, 2.0. On a toujours la presse et la télévision, hein, qui en américain s'appelle le tube, et on a le web et YouTube. On a des mises en récit qui sont dans l'engagement, hein, qui est un des éléments clés de l'éducation aux médias, avec des formes narratives longues, hein, on y reviendra pour la lecture, hein, et on a à côté, hein, avec Information 2.0, le règne du commentaire, de l'émotion, du mix, du remix, et des formes narratives courtes. On a des audiences à l'ancienne et des communautés. Voilà, situation navette. Tout le monde parle à tout le monde. Des fois, les communautés font des audiences. Des fois, des formes courtes vont générer des formes longues, etc. En fait, nos deux cerveaux, c'est une situation idéale. On est très riche en informations. Le problème, c'est que la désinformation, elle fonctionne aussi beaucoup au même type d'éléments. Hein. On a toujours les médias 1.0 et les médias 2.0. Et arrive des formes narratives courtes ou longues, d'ailleurs, des rumeurs, des satires, des conspirations, etc., hein, qui viennent créer un écosystème avec des motivations pas très nobles, hein, par rapport à l'apprentissage. Le piratage, l'ingérence, la menace, la déstabilisation des pays, avec une rhétorique qui est complexe et qui est très, très compliqué à décoder quand on est en EMI, même quand on est des spécialistes. Hein. La logique des secrets et des révélations, hein. Les valeurs dénigrées de la République, les institutions critiquées, notamment l'éducation et les bibliothèques, la collusion d'intérêts entre intérêts extérieurs et intérieurs, etc. Donc, ça, c'est l'écosystème de la désinformation tel qu'il s'accélère à partir de 2012, hein, le moment où Facebook et Twitter et les réseaux sociaux entrent en bourse aux États-Unis et où ils ont une obligation de résultat et ils découvrent que pour faire de l'audience et de la communauté, il faut de la news, il faut de l'actu. C'est eux qui s'emparent à ce moment-là de l'information comme actualité et la transforment en information comme data. Ils se servent de la façon dont on se circule et dont on se nourrit de l'information actualité pour profiler les gens et leurs goûts. Et en 2012, ils sont obligés de réussir et ils ont un modèle d'affaires basé sur la publicité. C'est pour ça qu'à partir de 2012 arrivent les premières manipulations des élections aux États-Unis. En 2016, ça s'amplifie et en 2017, ça nous atteint. Et donc, on se retrouve à devoir faire un peu le bilan, l'état des lieux des désordres de l'information au regard des enjeux de société, que ce soit le bien-être des personnes, la vie privée, la citoyenneté et les libertés fondamentales et la protection des mineurs. Ça relève quand même des compétences de l'école et de tous les éducateurs autour de l'enfant. Et donc, on voit apparaître des grandes catégories, l'addiction, la désinformation, le discours de haine et la radicalisation. Et dans toutes ces recherches, et je sais que j'ai participé à un certain nombre autour de ces trois-là, les conclusions, c'est il faut de l'EMI augmenté par le numérique. On ne peut pas rester juste à la presse. Il faut, l'EMI, c'est le lieu où on peut créer du contre-discours intelligent. D'où les lois qui mettent en place l'EMI qui en parle. Hein. Mais moi, j'attends de voir les moyens. On est d'accord ? Trouver des modèles d'engagement, et à nouveau, on demande à l'EMI de trouver ces modèles d'engagement, puisque ça fait partie de son épistémologie, et l'implication multi-acteurs, parce que l'EMI a toujours mis en place des rencontres entre différents types d'acteurs, en cassant les silos et les bunkers entre l'école et l'extérieur. Donc vous voyez pourquoi on se retrouve à chaque fois mentionné, en Europe, etc. Je faisais partie du groupe d'experts européens sur la désinformation en ligne. Dans la grande conclusion de notre rapport, il y a deux choses, promouvoir le fact-checking pour les journalistes et promouvoir l'EMI. Voilà. Et donc... ce qui est très compliqué, c'est que la situation de la désinformation, c'est la même que la situation de l'information. On a les mêmes acteurs. La presse, YouTube, là où sont le plus les jeunes en ce jour. Les commentaires engageants, ils sont très bien utilisés pour la désinformation. Les communautés en ligne polarisées, platistes, complotistes, etc., font de l'audience, etc. Donc, on a une situation, c'est là où je disais, c'est complexe. Le même processus, les mêmes outils positifs, démocratisants, sont aussi, évidemment, des outils utilisés pour aliéner. Voilà. Ça vous dit des choses, non pas sur les médias, mais sur la nature humaine. Et donc, on se retrouve avec notre épistémologie augmentée. Tout d'un coup, protection et participation, certes, mais se rajoutent la vie privée, les data personnelles, les libertés en ligne, et se retrouvent rajoutées à la citoyenneté toutes les questions de gouvernance Internet, les plateformes, leur transparence, etc. On le voit bien dans les lois. Ça se rajoute à comprendre la citoyenneté et faire partie donc, d'une citoyenneté numérique. Et puis, la créativité qui va demander beaucoup de formes d'expression en ligne et justement ne pas se laisser intimider, qui est une des façons de fonctionner de la désinformation. Voilà. Donc, on est dans l'augmentation. Et je n'ai pas fini. Parce que les pratiques des jeunes nous en rajoutent une couche, si je puis dire. Donc là, en l'honneur du public que vous êtes, de bibliothécaires, je vous fais un condensé monstrueux des recherches récentes sur la lecture et l'écriture des jeunes, juste pour qu'on voit ce que ça donne comme impact dans les bibliothèques. Donc première chose, ils font tout. Ils écrivent papier, mais ils sont sur, sur la télé, ils sont sur Internet, etc. Et ils laissent des traces et des données à l'appel. Pour ce qui est de leur goût, notamment en matière de lecture, ne dites surtout pas qu'ils ne lisent plus. En fait, ils lisent beaucoup. Et ils sont très ambitieux. Ils lisent des sagas de 7 à 8 tome, appelez-la Harry Potter, n'importe quoi, et chaque tome 600 pages, 800 pages. C'est juste, les formes narratives longues se portent très bien en ligne, merci pour elles. Et quand ils se payent 10 ans d'une série, les formes narratives longues se portent très bien. Par contre, c'est éclectique. Ils sont un peu sur tous les supports, on ne sait pas très bien où ils sont. C'est toujours lié à l'écriture. Ils commentent, les formes narratives longues s'accompagnent de formes narratives courtes, ils annotent, ils trient, voilà. Donc là où on est perdu un peu, nous, c'est qu'on ne reconnaît pas nos classiques et qu'ils n'ont pas une démarche patrimonial, hein, de préservation, etc. Ils n'ont pas ce respect-là. Et ils ne sont pas sur le papier seulement. Donc, par exemple, hein, et ce qu'on voit, c'est que leur pratique en ligne, en fait, il y a un continuum. Hein, ce n'est pas aussi séparé que ça en a l'air. Hein. Là, on est sur Babelio, par exemple, hein, que vous connaissez sans doute, hein, puisque c'est un réseau social de type bibliothèque, hein, où on voit qu'ils eh ben, sont très actifs, ils partagent, ils annotent, ils commentent, voilà, 149 critiques, 449 citations, etc. etc. hein. Il y a une activité, sauf qu'elle n'est pas très visible par les adultes, hein, et c'est peut-être ça qui donne le sentiment qu'ils ne sont pas intéressés. Leur médiation professionnelle habituelle, les éditeurs, existent toujours, mais alors, c'est augmenté aussi pour eux. Ils ont les plateformes Amazon, notamment, hein, les agrégateurs de contenu, comme Pinterest, les réseaux de pairs, Babelio, on vient de le voir, les booktubeurs. Hein, et eux, ce qu'ils font, hein, c'est un appel direct aux jeunes, avec des contenus notamment enrichis, plein de jeux, plein d'options, plein de possibilités. Et ça vous déplace. Ça déplace le monopole que vous aviez auprès d'eux, par rapport à la recommandation. Tout ce qui est les libraires, les bibliothécaires, les animateurs culturels, hein, il y a un déplacement partiel. Il passe aussi par tous ces éléments-là. Et si vous, vous n'êtes pas en négociation avec ces éléments-là, vous ne savez pas qu'ils existent ou ce qu'ils font, eh bien, vous allez être encore plus déplacé. C'est peut-être ça la première urgence. Comment ils utilisent les espaces que vous leur offrez, hein ? Ben, ils sont un peu partout quand même. Hein. Ils sont à la bibliothèque publique, au CDI de l'école, à la médiathèque, hein, et ils sont en ligne, où il y a des magasins. Et ces espaces, pour eux, sont des espaces culturels, sociaux et techniques. Ils les redéfinissent dans l'espace physique. Vous avez vu ici, par exemple, il y a 3 ou 4 espaces différents dans ce CDI. Ils peuvent créer des espaces privés selon qu'ils veulent, ce petit groupe-là, par exemple. Et ils construisent leur environnement familier. C'est l'entre-soi adolescent, comme on le voit ici. Elle est à la fois connectée avec un groupe d'amis et avec 2 ou 3 amis dans le réel. C'est ça le continuum en ce moment pour eux. Et les bibliothèques sont un lieu privilégié où ça se passe, parce que ce n'est pas assis comme en classe ou en randonnion. Alors, ces espaces hein, que vous êtes sont des espaces augmentés. Il faut vous y faire. Et c'est, ce qui est cette augmentation, hein, c'est l'ergonomie actuelle des dispositifs de lecture et d'écriture. Les tablettes, c'est très pratique. C'est des dispositifs très mobiles. Et ils offrent plusieurs fonctionnalités ouvertes, hein, des jeux, du réseautage, de l'hypertexte. Hein. Voilà. Donc là, je pense que j'enfonce les portes ouvertes, mais juste pour rappel, hein, pour ce que ça donne, hein, ça veut dire que la lecture n'est plus une pratique autonome individuelle, comme au XIXe siècle. C'est une pratique immersive et collective. Voilà. Elle reste, hein, il y a un petit peu de lecture autonome, hein, mais ça n'est plus la seule modalité de lecture. Le lecteur, c'est aussi un écrivain, au sens quelqu'un qui fait du commentaire, qui fait de la curation, qui fait de la production, qui fait du mix et du remix. Et du coup, il y a tout un univers éditorial qui émerge, avec toutes sortes de pratiques, la discussion, l'échantillonnage, le mix, la recommandation, etc. Ça fait partie pour eux de ce qu'ils font quand ils lisent. Là où nous devons jouer un rôle, hein, c'est que il y a une logique commerciale. Les GAFAM sont là pour faire des bénéfices, hein, mais ça côtoie en France, en tout cas, la logique scolaire et publique, avec un risque de prise de contrôle. Voilà. Mais nos jeunes ne sont pas dupes. Ils peuvent utiliser les plateformes commerciales en les privatisant pour leurs usages. Les usages varient d'ailleurs entre loisirs et apprentissage scolaire, divertissement et devoirs scolaires, clavier et cahier. Et en France, il y a encore beaucoup de force de la prescription scolaire pour les usages documentaires en ligne notamment. Ils font leurs devoirs en classe et à la maison et ailleurs et dans les transports. L'apprentissage scolaire fait partie du bagage et de l'environnement. Vous voyez là, clavier et cahier, bon, ils sont là. Ils font leur propre collection, et là, ils vous font une concurrence directe. La mobilité est accrue, mais ne pleurons pas. Avec le papier, déjà, on avait une très, très grande mobilité. Et donc, du coup, hein, c'est ce qui nous arrive à nous, c'est qu'on a à gérer une très, très grande diversité d'espaces en ligne et hors ligne, avec des logiques hybrides. Voilà. Non plus séparées, mais hybrides les unes des autres. Et on voit se mettre en place un vaste répertoire de stratégies numériques qui se rajoutent aux compétences de l'EMI. Les dispositifs les rendent multitâches. Ils traversent différentes couches de textes dans la navigation. Ils font circuler les textes entre eux, ils les échantillonnent et les partagent. Ils les transforment, ils peuvent les indexer, les signaler et même les copier. Et donc c'est un processus que Bazin appelle la métalecture, continue, émancipé du papier, avec des objets et des dispositifs interopérables. Ça va, j'ai pas trop vite hein? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Voilà, merci. Ça m'embêtait, mais voilà. Donc là, c'est le point, on va dire, au niveau de la recherche, des usages, des pratiques et de l'histoire et de l'évolution, à la fois des contenus, des désordres de l'information, et aussi de comment les jeunes se nourrissent en ligne, pour avoir nos deux ou trois pieds et comprendre comment agir maintenant, et quelles implications pour vous. Là, je les résume, en fait. C'est parce qu'il faut, il faut bouger. Il faut se transformer soi-même pour continuer à exister en tant que bibliothèque, me semble-t-il. Et passer d'une logique d'équipement et de connexion à une logique des usages et des expériences augmentées. Il faut se servir de ce qu'ils font. Il faut connaître leurs usages et s'en servir éhontément. Il faut passer d'une logique de système et de documents à une logique centrée sur l'usager. Et eux, ils sont dans les documents, les médias, les datas. Et il faut pouvoir donner du sens à cela. Et puis, il faut passer d'une logique de conservation, qui est votre cœur de mission historique, à une logique de sociabilité et d'inclusion. Voilà. Et donc, bien connaître les pratiques et les collections mixtes qu'ils font avec... repenser peut-être à une nouvelle offre de services partiellement définie avec les usagers. La participation et la collaboration, ça vaut pour nous aussi dans les bibliothèques. Il faut entendre, il faut amener les publics à partager avec vous, à co-construire avec vous des programmes, des parcours de lecture, que sais-je. Là, l'inventivité, je fais confiance. Et donc, vous vous retrouvez en tant que bibliothèque à devoir réinventer plusieurs choses, notamment l'accès. Et l'accès aux dispositifs numériques. Et pour cela, il faut absolument se battre entre le danger actuel des GAFAM, qui, eux, sont sur des logiques de divertissement, pas des logiques d'apprentissage, et des logiques commerciales et pas des logiques de services publics. Voilà. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas se battre. Les GAFAM sont dans les écoles, sont dans les bibliothèques. Nous, on a encore cette possibilité d'ériger un certain nombre de remparts, plus ou moins poreux, il ne s'agit pas de les exclure, mais bien d'apprendre l'équilibre, d'arriver à un équilibre entre le public et le commercial. Et donc, il faut bien imaginer des modalités techniques et temporelles différentes. Ça peut impliquer que les bibliothèques restent ouvertes la nuit, par exemple, ce qui se fait dans certains pays. Ça veut dire d'articuler les activités en ligne et hors ligne des jeunes et les amener à venir à la bibliothèque parce que c'est un lieu de sociabilité juvénile. Où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer en dur ? En vrai, à la bibliothèque. Donc il faut créer des espaces qui fassent sens pour eux. Et donc, cette idée tentante, bien sûr, d'adopter pour les bibliothèques la même terminologie que celle pour certaines friches industrielles, de devenir des tiers-lieux, des tiers-espaces, où on peut expérimenter sans danger les opportunités du numérique. On peut prendre des risques, on peut aller voir des fake news, mais on est dans un lieu où on en discute et où on ne les distribue pas, on ne les diffuse pas. Mais on peut quand même comprendre le mécanisme, par exemple, accompagné par des adultes. Voilà, donc c'est un petit peu cette question de l'accès qui est à réinventer. Et ça implique peut-être de même de modifier physiquement une bibliothèque. Alors, évidemment, je suis mal placée ici à la BPI pour le dire, parce que la BPI a été conçue comme un espace poreux dès le départ, il y a très longtemps, avec des zones de lecture, on va dire, confortables. On ne peut plus lire quand on lit sur tablette, on ne peut plus lire assis à une table. Ça ne fait pas sens. Et donc, voilà, il faut créer des lieux de rencontre un peu affinitaires, des agora. Il faut susciter dans des ateliers un certain nombre de réflexions. Il faut avoir une zone de jeu et il faut avoir une fonction kiosque où on trouve, entre autres, par exemple, des journaux papier. Voilà. Tout cela, c'est des parcours organisés dans les bibliothèques et donc pas simplement un lieu où il y a une grande salle de lecture, point barre. Il faut casser la salle de lecture. Vous allez me haïr à la sortie de cette réunion, mais bon, voilà, c'est une proposition. et augmenter la mobilité entre l'école et l'extérieur, hein, parce que le CDI à l'école, certes, mais il faut bien aussi aller vers la bibliothèque beaucoup plus large, les médiathèques, hein, et que les jeunes comprennent bien, hein, que ces espaces s'articulent entre eux, qui font sens, et y compris les bibliothèques universitaires, qui sont souvent délaissées, méconnues des jeunes. Et là, ce que je vous disais sur les pratiques des jeunes, je n'ai pas dit, mais j'ai aussi inclus les étudiants. Hein. Donc c'est les mêmes, hein, ceux qui sont en lycée, un an et deux ans après, c'est les mêmes. Voilà, donc c'est crucial de jouer sur cette correspondance entre les deux, hein, et articuler donc les formes d'apprentissage sur site, hein, et les savoir-faire en ligne, hein, vraiment ne pas les ignorer, ne pas les laisser de manière séparée et disjointe, hein. C'est le moment de conjoindre, c'est le moment. Et il faut aussi que la bibliothèque en dur devienne un espace en ligne. Il faut qu'elle se crée une identité très claire en ligne, avec des services de recherche, pourquoi pas, hein, et puis une entraide entre bibliothécaires, parce qu'après tout, on ne peut pas tous être formés à la même chose, hein, des apps, après tout, ils adorent les apps, c'est la culture des apps, pourquoi ne pas avoir des apps pour nous, hein, j'ai vu que vous en aviez quelques-unes ici, notamment pour les audiences, des espaces de test, on sait qu'ils sont très friands de tout ce qui est des avant-premières, des back-office, de ce qui se passe derrière, etc., etc. Pourquoi ne pas faire que la bibliothèque soit le lieu où on aille voir derrière ce qui se passe, où on démonte, hein, où on, voilà. Des imprimantes 3D. Là, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec IFLA, hein, en espérant que le prix des imprimantes va baisser, parce que là, ça permet l'autopublication. Ils vont non seulement produire des choses, mais vont pouvoir aboutir à la version papier de la chose. Le papier revient, mais en fin du processus. Et évidemment, tous les systèmes de recommandation dont ils sont, eux, friands, hein, mais que vous pouvez aussi faire en vous basant sur leurs usages, hein, et donc en les incorporant au processus. Voilà, tout ça, c'est des suggestions. Je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais ça peut être de plus en plus partagé avec toutes les bibliothèques qui sont en demande. Et à part l'accès, hein, à part réinventer l'accès, je pense que vous avez un rôle crucial à jouer dans réinstaurer la confiance. En ce moment, les désordres de l'information ont quand même beaucoup chahuté nos démocraties, notre confiance dans la presse, dans les médias, dans les institutions. C'est peut-être là qu'on peut utiliser les bibliothèques, hein, et notamment les médiateurs que vous êtes, pour faire quoi ? Pour renouveler la sociabilité et puis pour organiser des espaces de contre-discours, des lieux où on sait qu'on va trouver des faits vrais. Pas des faits alternatifs, hein, comme on dit du côté de chez Trump, etc. Et Dieu sait que nous, du côté des universitaires, on se sent extrêmement concernés de voir que nos faits vrais, nos résultats de recherche, hein, deviennent tout d'un coup une opinion qui va alimenter une théorie complotiste ou climato-sceptique. Donc on est tous embringués avec vous, les chercheurs, je vous signale. Hein, et ne vous séparez pas de nous et ne nous séparons pas les uns des autres, hein, parce qu'on a besoin de se nourrir les uns des autres. Hein. Et donc il est nécessaire, hein, d'imaginer les modalités de contre-discours et de résolution de conflits. Ce n'est pas facile. Ce que la recherche montre, c'est qu'en ce moment, les contre-discours ne marchent pas. Hein, que les gens qui sont convaincus, ça ne fait que des biais de confirmation qu'il y a effectivement un complot là-bas derrière pour eux. Donc ça ne s'improvise pas. Là, il faut beaucoup d'intelligence, de finesse et de confiance qui permet justement de débattre sans se battre. Hein. Réunir tous les acteurs autour des jeunes. On sait que parmi les contre-discours, c'est ceux en qui ils font le plus confiance, c'est les mêmes qu'eux, c'est les pères, c'est leur groupe d'âge. Alors comment on les transforme en mentors et en ambassadeurs, ces jeunes qui peuvent avoir une influence ? Et je ne parle pas que des services civiques, mais c'est un début. Comment est-ce qu'on se focalise sur des faits clés à communiquer ? Comment on les choisit, comment on les trie ? Quel esprit critique ? Tout ça, vous le savez, la source, toutes les choses que vous faites, c'est là que ça rentre. Et puis, articuler le en ligne et le hors ligne pour mieux se préparer à des questions comme, par exemple, le signalement. On peut éviter une catastrophe si on voit que quelqu'un jeune dérive et qu'il s'isole. Enfin, il y a un certain nombre de caractéristiques qui vous permettent de les repérer et peut-être d'aider à les réinsérer. Voilà, c'est un peu l'inclusion, c'est ça aussi. Et c'est une de vos missions. Alors, en matière de formation, c'est, pour moi, vous êtes la condition de possibilité de cette émancipation des jeunes. On en parle, on s'en gargarise. Pour le moment, leurs pratiques sont des pratiques sauvages, pas accompagnées, guidées notamment par les médias commerciaux. L'accompagnement me semble essentiel pour vous. Tiens, ça rebug dès qu'on parle du loup. Voilà. Et On peut partir, pourquoi pas, hein, du référentiel de compétences de 2013 qui accompagne la profession, hein, des profs doc. Et vous voyez que j'insiste sur les profs doc. Tous mes collègues ne le font pas. Je maintiens qu'il faut une discipline et qu'il faut que ça soit incarné par une personne. Est-ce que les profs doc sont les seuls? Sans doute pas. Parce que l'EMI est un lieu, on l'a vu, multi-acteurs. Hein, mais il faut bien que quelque part, ça soit représenté, et pourquoi pas par vous. Si vous êtes capable et si vous êtes formé à aller parler avec les autres enseignants, à créer des équipes. Hein. Donc là, la circulaire de juillet 2013, hein, elle vous met l'éducation en médias dès le départ. Avec pédagogie, didactique, infodocumentaire, sociologie des médias. Pour le moment, dans la formation, vous me le direz après en débat, hein, c'est faible et fragile et très irrégulier sur le territoire français. On est plutôt infodoc qu'infomédia. Normal d'ailleurs, hein. C'est le risque de que ça soit une seule profession qui le porte. Hein. Mais voilà, et alors infodata, pas encore au bataillon. Hein. Maîtriser la politique documentaire de l'établissement, hein, donc gestion, ça c'est votre cœur de métier habituel au départ, hein, l'acquisition, la veille, voilà. Assurer la responsabilité du centre de ressources avec la gestion, la chaîne, le travail en réseau. Hein, et puis, je vous signale, hein, c'est pour ça que j'ai commencé en vous montrant l'historique, un historique très international, on est sur du partenariat, de l'international, de l'européen et de la politique artistique et culturelle. Mince tâche. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et là, j'invente avec vous, hein, à partir de ce qu'on vient de voir. Votre curriculum de base doit mieux intégrer l'EMI et les trois cultures de l'information, notamment celle-ci qui arrive maintenant. Vous êtes très bien placé pour le faire, sans être des codeurs. Hein. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre la donnée et l'algorithme. Ce n'est pas le but de faire des codeurs et que vous soyez vos mêmes codeurs. Hein. Il faut qu'on vous forme à cette médiation pédagogique, hein, pour l'inclusion, et pas seulement l'indexation d'ouvrages, hein, pour bien connaître à la fois, hein, les médias de masse et les médias sociaux, au-delà de la documentation, pour aider les équipes à créer des scénarios pédagogiques avec le geste EMI. Vous vous rappelez, le geste pédagogique EMI, c'est de la citoyenneté à la créativité. Il est là. Les expériences augmentées des jeunes. Et vous êtes en capacité, peut-être, d'être le plus en confiance avec les jeunes et d'autres adultes, notamment quand vous êtes dans les municipalités. L'axe parentalité est crucial en ce moment. Les parents sont aussi en désarroi que les enseignants, mais ils peuvent apporter des choses. Et l'axe intergénérationnel, les personnes âgées et à la retraite peuvent être extrêmement utiles et extrêmement actives. Et puis, et je sais que vous dites, mais on en a déjà plein les poches, c'est déjà très, très lourd ce que vous proposez, mais je pense qu'il faut garder la capacité à se mobiliser nationalement et internationalement. Hein. Internet, c'est transfrontière, c'est transmédia et c'est translangue. C'est ce que j'appelle l'effet transverse d'Internet. Hein. Les informations des États-Unis nous arrivent, elles sont traduites en français. Des images de Russie passent par l'Angleterre pour atterrir chez nous 3 ans plus tard. Voilà, donc c'est une réalité des désordres de l'information. Vous avez de très, très fortes instances avec lesquels je sais que vous êtes en contact, l'IFLA à l'international et BLIDA au niveau européen. Et en fait, un certain nombre de vos principes sont en grand danger parce que les jeunes ne sont pas sensibilisés. Ils ne savent pas à quoi vous servez. Et vous ne pensez pas le leur dire. C'est difficile. Alors, où sont vos points névralgiques? Ben, l'accès, parfois, ça reste encore problématique, notamment en termes de l'accès à l'achat, vu les coûts de ce que les plateformes comme Amazon et autres, hein, ou Apple mettent, des coûts prohibitifs pour accéder à leurs collections et des coûts qu'il faut renouveler chaque année. Donc, vous n'avez plus donc le dépôt. Hein. Vous avez perdu le dépôt de tout ce qui se crée en ligne. Pour moi, c'est catastrophique. Propriété intellectuelle, les formats propriétaires vous posent problème. Le prêt, quand on a des tablettes, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est avec des systèmes Amazon et autres, est-ce que ça a encore du sens? Et puis,
Et ça, c'est une tâche énorme. Comment préserver les communs de l'information, hein? Comment faire en sorte que des entités comme la Wikipédia ou autres, hein, ne deviennent pas des entités propriétaires auxquelles on n'a accès qu'en payant des services premium ou freemium. Voilà. Je pense que ça, c'est des combats. Alors, IFLA les mène, hein, au niveau international, parce que ça ne peut pas se régler dans un seul pays. Mais plus vous sensibiliserez les jeunes à les mener avec vous, plus ils auront, donneront du sens au fait d'aller en bibliothèque. Et au fait d'avoir une sociabilité en bibliothèque, et pas juste se faire des copains. Hein, c'est aussi se faire des biens communs. Voilà. Donc ça, c'est essentiel pour vous, pour nous, dans les valeurs démocratiques. Et je ne vais plus vous embêter très longtemps, je vous assure. C'est moi qui suis embêtée par ce système. Vous voyez que l'interopérabilité, ça sert. Et pour le moment, là, je ne l'ai pas. Mais on est au fin de mon PowerPoint. Je n'ose pas trop sortir tout de suite, parce que je voulais vous envoyer sur des références. Mais les éléments finaux, hein, que je voulais vous laisser, c'est que j'ai besoin de vous. Les chercheurs en EMI ont besoin de vous pour mener à bout un agenda complet, pour que l'EMI ne soit pas juste mis dans les textes, comme elle l'est depuis des années, et reste lettre morte au moment du passage à l'acte. Pour cela, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires. Former, former, encore former. C'est par vous, c'est le point fragile actuel, c'est par vous que ça passe. Et on a des outils en ligne, on a des MOOC, etc., etc. Accompagner la transition numérique en gardant les valeurs de l'EMI, les valeurs de liberté d'expression, de participation, d'éducation, de dignité de la personne, etc. On ne les laisse pas dans le pré-numérique. Les compétences EMI, je vous en ai parlé, hein, la résolution de conflits, la maîtrise des stéréotypes, etc., etc. Les stéréotypes, on croyait en avoir fait le tour, hein. Bien, en ligne, je vous garantis que c'est inédit, la taille des stéréotypes de genre, par exemple, dans les jeux vidéo et les représentations des femmes et des corps, etc., etc. Il y a tout à refaire. Tout ça, c'est dans vos capacités, mais il faut s'y remettre. Un atelier stéréotype, par exemple, serait très, très bienvenu dans les années à venir. Évaluation spécifique. Pourquoi je dis ça? Parce que l'EMI, quand elle est faite dans les écoles, elle est faite en cours de français ou en cours d'histoire. Qu'est-ce qu'on évalue? On évalue le cours d'histoire. Et donc, on ne peut jamais dire que l'EMI est efficace. C'est un problème. C'est une raison pour laquelle je dis qu'il faut que ça soit incarné dans une discipline particulière et évalué de manière particulière. Voilà. Et puis, vraiment, il y a des gestes pédagogiques spécifiques à l'EMI. L'EMI n'est pas une matière qui joue sur la transmission top-down. Elle passe par le bas, par la contribution. Mais elle est en grand danger quand elle ne pratique que des bonnes pratiques. Parce que les bonnes pratiques en France ne sont pas réutilisées et construites pour donner de la connaissance. Or, à un moment donné, dans la compétence, il faut construire de la connaissance, une connaissance qui est à disposition et qui est transmissible. Si on enfile les bonnes pratiques comme des colliers de perles, ça fait des colliers de perles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait pas une encyclopédie. Ça ne fait pas un manuel, ça ne fait pas un ensemble construit de cycle à cycle et qui permet de progresser. D'où le sentiment que vous devez tous avoir, si vous avez fait de l'EMI depuis un moment, que vous stagnez. Arrive une nouvelle technologie, donc on la refait, etc. Là, le sentiment de progression, hein, qu'on a des développements, hein, qu'on a de l'initiation, qu'on a, etc., ça, c'est à créer dans l'EMI. Et inventer une collaboration réfléchie avec les différents acteurs. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en ce moment, il y a de l'abus en EMI. Tout le monde veut en faire, et notamment les journalistes. Les journalistes sont un problème pour l'EMI et un avantage pour l'EMI. Ils sont un avantage quand ils viennent dans les classes. Ils sont un problème quand ils viennent dans les classes. Information, désinformation, vous vous souvenez? Pourquoi? Ils ne sont pas formés à enseigner. Ils n'ont pas le geste pédagogique. Ils ont le geste journalistique, qui est très important puisqu'il est authentique et c'est très important que les jeunes le voient, hein, et que pour eux, les journalistes soient des héros. Mais après, ce n'est pas un one shot, ce n'est pas un coup. Il faut qu'il y ait une continuité pédagogique. Et donc, de dire que l'EMI, c'est simplement envoyer les journalistes dans les classes, pour moi, c'est très, très problématique. Et je préfère dire que les journalistes doivent faire du fact-checking pour eux-mêmes. C'est leur profession qui est en danger, plus que la nôtre, que celle des bibliothécaires. Parce qu'ils se sont laissés prendre au piège de la désinformation. Ils en sont parmi les rouages. Donc, le fact-checking, c'est bien pour les journalistes. À l'école, c'est autre chose. Dans les bibliothèques, c'est autre chose. Ils peuvent être invités, mais au même titre que des booktubeurs, que des influenceurs, que des artistes, etc. etc. On ne peut pas leur laisser ce monopole de dire l'EMI, c'est le journalisme. C'est trop réducteur par rapport à l'ampleur et à la complexité des phénomènes. J'espère vous avoir convaincu de cela. Donc, ils font partie de l'EMI. Ils n'en sont pas les détenteurs privilégiés. Les parents, les pédagogues, les plateformes doivent faire partie du dispositif aussi et être invités à la table. Et vous, dans les bibliothèques, vous pouvez inviter Facebook. Ça ne vous met pas en danger. Vous pouvez inviter un booktuber. Ça va faire venir des jeunes. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, bon, soutenir la recherche, comme je vous disais, on a besoin de vous. Voilà. Je vous signale mon bouquin à paraître un jour peut-être par la Documentation française qui a pris 6 mois de retard sur « Faut-il avoir peur des fake news ?» Merci de votre attention.